Alors, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des passions chez le philosophe René Descartes. Alors, ça peut sembler tout à fait étrange de parler de Descartes et des passions parce que l'idée que l'on a de Descartes va plutôt à l'encontre de l'idée que l'on a de la passion, de l'émotion, de l'affect, etc. Et pour différentes raisons. Alors, tout d'abord, le terme même tiré de Descartes, qui est cartésien, insiste sur l'idée de méthode, de rigueur, de rationalité, et ce sont des termes que nous opposons habituellement à l'idée de passion. Et c'est encore plus net avec le sens péjoratif du terme passion, où on parle d'esprit sec, d'esprit trop systématique, vraiment opposé à tout ce qui est intuition. Alors, je vais essayer de vous montrer que l'opposition doit vraiment très sérieusement être remise en cause. Mais il y a encore d'autres raisons pour lesquelles on oppose Descartes et la passion. Descartes est peut-être l'emblème du philosophe rationaliste qui accorde donc de l'importance avant tout à la raison. Et pour nous, aujourd'hui, la notion de passion est vraiment opposé à la raison. On nous a toujours appris que la raison devait contrecarrer les passions et leurs effets. C'est un héritage chrétien, évidemment, et on a du mal à imaginer que les deux éléments peuvent aller ensemble. Donc un philosophe rationaliste, a priori, et surtout s'il est fortement rationaliste comme l'est Descartes, il ne peut pas accorder particulièrement d'importance aux passions. Et puis, autre élément, c'est que Descartes a écrit de nombreux ouvrages, mais essentiellement des ouvrages scientifiques. Assez peu d'ouvrages purement philosophiques au sens actuel du terme, et de ouvrages métaphysiques. Or, on retient de Descartes avant tout les méditations, où il insiste sur le dualisme de la pensée, en mettant en évidence tout ce qui est rationnel, et éventuellement son discours de la méthode qui va un peu dans ce sens-là. Or, il y a d'autres textes très différents qui vont aller beaucoup plus dans le sens des passions, et il a notamment un ouvrage qui s'appelle « Les passions de l'âme » et dont je vais particulièrement vous parler aujourd'hui, mais un peu plus tard. Je vais d'abord essayez de vous montrer pourquoi Descartes, même au-delà de cet ouvrage qui s'appelle « Les passions de l'âme », a vraiment une importance dans ce thème des passions. Tout d'abord, son caractère. Descartes est un homme passionné. Quand on lit sa correspondance, on le voit enthousiaste, colérique, pas du tout la personne désincarnée qu'on aurait tendance à imaginer. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a une générosité tout à fait hors du commun. Quand il vivait aux Pays-Bas, on venait à Paris auprès de son ami Mersenne pour essayer d'obtenir un poste d'employé, de servant chez Descartes, tellement il avait la réputation de bien traiter les personnes qui travaillaient pour lui. Il a épousé une de ses servantes, d'un de ses... Or, il était de petite noblesse. Et ce n'est vraiment pas quelque chose de particulièrement courant à l'époque. D'un de ses domestiques, il lui a enseigné les mathématiques et au point de que celui-ci est devenu professeur à l'université en mathématiques, plutôt que le faire travailler à son service. Et là aussi, on voit un caractère qui n'est pas du tout celui de cet homme qui s'intéresse à son sujet d'étude et se moque de tout ce qui est autre. Même si sa recherche du savoir est un élément essentiel pour lui. Encore autre élément de sa générosité, il a abandonné son titre de noblesse à son frère, ainsi que sa fortune, gardant juste de quoi vivre sans problème, mais sans plus. Et puis, surtout, Descartes, il est incroyablement passionné par la recherche de la vérité. Il va y consacrer son énergie et l'entièreté de sa vie, mais vraiment de manière, non pas c'est une tâche qu'il doit faire, mais avec passion. Je vous rappelle rapidement la démarche de Descartes. Il remarque qu'il a accepté durant sa vie des connaissances, des choses pour vraies, alors que par après, il s'est parfois rendu compte qu'elles ne l'étaient pas. Et lui, il veut être sûr de la vérité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il y a deux manières face à ça. Soit je vais réexaminer chacune de mes opinions pour voir si elle est réellement vraie ou pas, mais avec le problème, où est le critère pour juger de la vérité et comment est-ce que je peux en être sûr? Ou bien il va remettre en cause toutes ses connaissances, démolir l'édifice, l'image est de lui, pour repartir sur une fondation et un sol absolument certain. Il refuse donc tout ce qui pourrait être vraisemblable pour rechercher vraiment la vérité. Alors, qu'est-ce que ça signifie dans l'ordre de la connaissance de remettre en cause tout l'édifice du savoir? En fait, il va décider de douter de tout ce dont il pourrait avoir une raison, aussi faible soit-il, de douter. Alors, c'est un doute hyperbolique, méthodologique, mais pas du tout le doute des sceptiques. Les sceptiques, ils vont douter et rester dans ce doute, considérant qu'on ne peut rien savoir de certain. Ou, souvent, à l'époque moderne, que seul Dieu a accès à la vérité et que l'homme, lui, ne peut accéder à cette vérité. C'est pas du tout le cas de Descartes. C'est par méthode qu'il décide de douter de tout ce dont il pourrait avoir une raison, même très faible, de douter. Alors, il va immédiatement douter de tout ce qu'on lui a appris, parce qu'il arrive, il a déjà remarqué que parfois, on lui a appris des choses qui n'étaient pas vraies. Il va douter de tout ce qu'il peut connaître par les sens, parce que Il remarque que parfois les sens peuvent être trompeurs. C'est le fameux exemple du bâton qui est dans l'eau et qui, à la vue, paraît brisé, alors que quand on le ressort de l'eau, il apparaît clairement être droit, ou si on le touche, donc par un autre sens, on peut savoir qu'il est droit. Et il va se dire que, bien sûr, qu'est-ce qui reste alors ? Est-ce qu'on peut considérer que son propre corps, on peut en avoir une connaissance ? Seuls les fous, dit-il, douteraient que ses mains sont mes mains. Oui, mais quelle raison ai-je de savoir que je ne suis pas fou ? Et puis, surtout, lorsque je rêve, il m'arrive de rêver que je cours. Et pourtant, je suis couchée dans mon lit. Donc, je ne peux pas non plus douter, je ne peux pas être certain de tout ce que je sais par mon corps. Mais même dans les rêves, 2 et 2 font 4, la somme des angles d'un triangle sont toujours égales à 2 droites. Donc, est-ce que les vérités, les certitudes mathématiques, elles, résisteraient à ce doute généralisé ? Et il réfléchit là-dessus et il se dit qu'on pourrait imaginer que le monde est dirigé non pas par un Dieu bon, comme on l'enseigne, mais par un malin génie. Et ce malin génie pourrait faire que je me trompe chaque fois que je découvre des choses mathématiques. Et même ça, donc, pourrait être mis en cause. Vous voyez le caractère absolument excessif et aussi passionné de sa recherche de la vérité. Pour remettre comme ça ses certitudes en question, il va s'isoler et il va y consacrer 9 années de sa vie. 9 années pour remettre en cause toutes ces croyances qui pourraient n'être que vraisemblables, même si elles ont de très fortes raisons d'être, elles sont très probablement vraies, mais il ne peut en être absolument certain. Et vous voyez donc ce côté passionné de Descartes par cette recherche de la vérité. Alors, comme vous le savez certainement, sa recherche de la vérité aboutit comme fondation certaine à son fameux cogito. Je pense, donc je suis. Au moment où je suis en train de penser, de douter de tout ça, il y a une chose certaine qui, même dans l'hypothèse d'un malin génie, ne peut être mise en cause, c'est que je suis. Oui, mais c'est quoi ce « je » qui est ? Ce n'est pas un corps. On a vu que le corps peut être remis en question. C'est une chose pensante, comme il dit. Je suis une chose pensante. Voilà comme il l'écrit dans ses méditations. Mais qu'est-ce donc que je suis ? Une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense ? C'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie. Qui veut, qui ne veut pas. La volonté fait partie de la pensée. Qui imagine aussi. L'imagination est un mode de la pensée. Et puis, il termine, et qui sent. Le « je » qui pense, cette chose pensante auquel il aboutit après avoir remis en cause tout le reste est aussi quelque chose qui sent. Et qui sent, pas par les sens qui ont été mis en cause, ainsi que le corps, qui ressent, autrement dit, les affects et les passions ne sont pas exclus de la pensée dans le mode cartésien. Alors, je sais que c'est difficile à imaginer, à la fois à cause de notre idée préalable chez Descartes. On a laissé de côté habituellement cet aspect-là de Descartes, et aussi du fait que chez nous, penser ou sentir, sentir au sens émotionnel du terme, ce sont deux choses qui sont fondamentalement opposées. Ça n'est pas forcément le cas chez Descartes. Alors, dans son dualisme qui sépare le corps et la pensée, ça nous donne, quand on regarde un peu rapidement, sans s'arrêter sur les mots, vraiment l'idée d'un être entièrement désincarné et de ce fait qui ne peut avoir des émotions. Mais quand on traite des passions, les passions ont à voir avec le corps. Elles sont aussi de l'ordre de la pensée, mais c'est un rapport entre la pensée et le corps. Ça fait partie, chez Descartes, de l'union de l'âme. Il appelle âme ce qu'on appellerait esprit aujourd'hui, ce n'est pas entendre au sens religieux, de l'union de l'âme et du corps. Et il explique dans son discours qu'il ne faut pas considérer que l'âme est comme un pilote dans son navire. Il ne suffit pas que l'âme soit logée dans le corps humain ainsi qu'un pilote en son navire, sinon peut-être pour mouvoir ses membres, mais qu'il ait besoin qu'elle soit jointe et unie plus étroitement avec lui pour avoir, outre cela, des sentiments et des appétits semblables aux nôtres et ainsi composer un vrai homme. Donc vous voyez, il y a vraiment chez Descartes, bien sûr, son dualisme, sa recherche en métaphysique, dans ses méditations, de cette chose qui pense et de ce qu'elle peut connaître, mais aussi prise en considération du corps et du ressenti. En fait, pour Descartes, selon la chose que l'on veut connaître, il va falloir faire appel soit à l'intellect pur, soit à l'intellect aidé de l'imagination, soit encore de l'intellect aidé du corps. C'est ce qu'il explique extrêmement clairement dans une lettre de juin 43 à la princesse Élisabeth. Premièrement, donc, je remarque une grande différence entre ces trois sortes de notions. En ce que l'âme, donc l'esprit, ne se conçoit que par l'entendement pur. Le corps, c'est-à-dire l'extension, les figures et les mouvements, se peuvent aussi connaître par l'entendement seul, mais beaucoup mieux par l'entendement aidé de l'imagination. Ce qui veut dire que dans les sciences, on a besoin aussi de l'imagination chez Descartes. Et enfin, les choses qui appartiennent à l'union de l'âme et du corps ne se connaissent qu'obscurément par l'entendement seul, ni même par l'entendement aidé de l'imagination, mais elles se connaissent très clairement par les sens. Alors, c'est vrai que dans le discours de la méthode et dans les méditations, les sens sont vus comme trompeurs. Mais c'est parce qu'on cherche à savoir quelque chose en particulier. On est dans l'ordre de la métaphysique. Certaines choses ont besoin des sens et de l'imagination pour pouvoir être compris. Et les... on a retenu que l'aspect entendement pur, désincarné et dualisme dans l'étude que l'on nous fait et dans les présentations qu'on nous fait habituellement de Descartes. Or, l'union de l'âme et du corps joue un rôle essentiel et c'est dans cette union que l'on peut comprendre et percevoir les passions, c'est-à-dire les affects, les émotions. C'est le sens que le terme a généralement au XVIIe siècle. Passion, ça veut dire affect ou émotion. Alors, on va aller voir justement beaucoup plus en détail maintenant dans cet ouvrage qui s'appelle « Les passions de l'âme ». Et on comprend mieux pourquoi Descartes peut avoir consacré un ouvrage, son dernier ouvrage publié de son vivant, à ce thème des passions. Beaucoup des réflexions qui ont été systématisées dans cet ouvrage viennent en fait de questions-réponses qu'il a eu d'échanges avec la princesse Élisabeth. L'ouvrage paraît en 1649, quand Descartes est déjà en Suède en train d'enseigner à la reine Christine. Alors, dans cet ouvrage, je vous ai dit que Descartes a écrit l'essentiel de ses ouvrages, ce sont des ouvrages scientifiques. Et c'est aussi étonnant pour nous qui avons de Descartes l'image du philosophe. À l'époque, il n'y a pas cette séparation entre la science et la philosophie que l'on a pris l'habitude par après de remarquer. Et ici, on va voir que Descartes, ce n'est pas là-dessus que j'insisterai le plus, mais je vais vous le montrer aussi, Descartes va véritablement aborder le thème des passions en physicien. C'est ce point de vue-là qui l'intéresse. Il le dit clairement. « Mon dessein n'a pas été d'expliquer les passions en orateur, ni même en philosophe moral, mais seulement en physicien. » C'est-à-dire qu'avec chaque passion, il va expliquer véritablement quels sont les effets physiques. Telle passion va provoquer une accélération du rythme cardiaque, une rougeur, une paralysie ou un mouvement, au contraire, une tendance au mouvement des membres. Il va décrire vraiment en détail les effets aussi sur le visage. Et une bonne partie de son ouvrage va être consacré à cette description-là des passions. Ça va être au point, il va le décrire tellement dans le détail, notamment pour ce qui est du visage, que au siècle suivant, au XVIIIe, Charles Lebrun va faire des esquisses et des portraits en essayant de mettre en évidence les effets physiques de ses passions chez Descartes. On voit ici différentes études avec différentes passions. Il y a d'autres qui sont vraiment étudiées en détail. On en voit plusieurs comme cela, et il y en a un bien plus grand nombre de ce que je vous ai montré. C'est pour vous montrer que dans cet ouvrage sur les passions de l'âme, il y a vraiment une attention de physicien, comme on pouvait dire alors, et de vraiment étudier les émotions à partir du corps et des effets sur le corps. Alors, c'est un aspect qui me semble important, mais si je passe toute la séance à vous raconter comment la rage va provoquer tel mouvement du sang, etc., j'ai l'impression que vous allez être un peu frustrés à la fin de la séance. Donc, je tiens à vous montrer que c'est là et que c'est un élément vraiment important de la pensée cartésienne. Je vais plutôt montrer les passions en général, leur utilité, et je viendrai jusqu'à l'aspect moral qu'on trouve également là-dessus. J'ai quand même pris l'ouvrage comme ça, si vous aviez des questions spécifiques là-dessus, je pourrais y retourner. Alors, on avait vu à la première séance que dans le terme passion, il y avait le pathos, la souffrance. C'est pas du tout ça chez Descartes. Chez Descartes, la passion, il va le comprendre, il va entendre dedans le terme passivité. Et va donc opposer la passion à l'action. Ce qui est, et c'est à nouveau une question de point de vue, ce qui pour l'esprit va être une action, par exemple la volonté, va pour le corps être une passion. Parce que le corps, quand l'esprit dit au corps de lever le bras, c'est pas le corps qui décide. Il est passif par rapport à ce qui se passe. Et inversement, dans toutes nos émotions, dans nos passions, c'est le corps qui est actif. Et donc, par rapport à l'esprit, comme on le considère habituellement, ben, on est passif. L'esprit ne peut pas décider comme ça qu'on va être joyeux, par exemple. Il aimerait bien ressentir de la joie, mais il ne suffit pas de vouloir être joyeux. On l'a tous expérimenté pour y parvenir. Donc l'esprit, par rapport à ses émotions, va être passif, et c'est pour ça qu'on parle chez Descartes de passion. Voici la définition qu'il en donne sur ce plan-là. Bien que l'agent et le patient soient souvent fort différents, l'action et la passion ne laissent pas d'être toujours une même chose qui a ces deux noms, à raison de deux divers sujets auxquels on la peut rapporter. Donc, ce qui est action pour l'esprit est passion pour le corps, mais c'est la même chose. Et ce qui est passion pour l'esprit est action pour le corps. Alors, il y a des cas où l'émotion vient à sa source à la fois dans l'esprit et dans le corps. C'est aussi possible et il étudie ces cas-là également. Par exemple, le sentiment, l'affect ou la passion de la joie, on peut la ressentir essentiellement physiquement, on est bien, tout simplement, on est joyeux, mais on peut avoir une idée qui nous met en joie de la même manière. Et donc un même affect peut venir de l'un ou de l'autre. Alors, à partir de là, il va montrer, pour bien comprendre ce que c'est la passion, qu'il y a des fonctions. Il y a des fonctions au corps qui vont être le mouvement et la chaleur. Et il insiste bien sur le fait que ça vient du corps. Habituellement, dans le contexte chrétien de l'époque, on considère que l'âme quitte le corps et puis, et à cause de ça, que le corps meurt. Chez Descartes, c'est véritablement l'inverse. Il dit clairement que c'est une erreur de concevoir les choses de la sorte, que les organes se corrompent, et c'est parce que les organes sont corrompus que l'âme, l'esprit n'est plus là. On a donc une vision et une conception qui est extrêmement matérialiste. Et j'insiste là-dessus parce que on a aussi de la même manière gommé tout le pendant matérialiste de la pensée cartésienne. On a retenu son aspect métaphysique, désincarné, et on n'a pas vu qu'elle allait de pair au niveau scientifique avec une vision profondément matérialiste, c'est-à-dire qui considère que les choses se font par la matière. Alors, l'âme, elle a... les fonctions de l'âme, c'est la pensée. Et dans la pensée, il y a d'autres, de l'âme ou de l'esprit. Hein. C'est toujours employé dans le terme d'esprit chez Descartes. La pensée, elle peut être de deux sortes. Ou bien elle est active, elle est action, et donc on a affaire à des volontés. Là, l'esprit seul peut décider, il peut vouloir. Ça ne veut pas dire qu'il va s'y tenir, mais ça veut dire qu'il peut vouloir. On peut vouloir sans problème résister à un gâteau. On y arrive ou on n'y arrive pas. Mais au niveau de la volonté, on le veut quand même et on n'a pas besoin d'aller au-delà. On est bien dans l'action. Et puis, il y a là où il y a la passion qui sont des perceptions et des actions qui se passent sans notre volonté. Et c'est ça qui est important. C'est avec ou sans la volonté. Et toutes nos émotions se passe en nous sans notre volonté. Alors, certaines actions vont se terminer dans l'âme ou dans l'esprit. Par exemple, on veut penser à une certaine chose et on va réussir à y penser. Ou bien, elles vont se terminer dans le corps. On veut se promener et on va pouvoir se promener de la même manière. Et de la même manière, les perceptions, ce qu'on sent et perçoit, ça peut être avoir pour origine soit l'esprit, on perçoit nos pensées, on en est conscient, ou bien ça peut être le corps, et alors ça va être tous nos sentis et tout ce qui se passe aussi dans les rêves, qui est un type de perception. Et voilà la définition véritablement qu'il va donner donc des passions après ce côté extrêmement systématique et ordonné que l'on trouve toujours chez Descartes. Après avoir considéré en quoi les passions de l'âme diffèrent de toutes ces autres pensées, c'est un type de pensée, mais un type de pensée particulière, donc, il me semble qu'on peut généralement les définir des perceptions ou des sentiments ou des émotions de l'âme qu'on rapporte particulièrement à elle et qui sont causées, entretenues et fortifiées par quelques mouvements des esprits. Alors là, il faut donner une explication. Les mouvements des esprits, c'est les mouvements qu'on appelle des esprits animaux à l'époque. Et qu'est-ce que c'est ces esprits animaux? C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'influx nerveux. Donc c'est par l'influx nerveux que cela vient et on est donc dans quelque chose. Quand on est dans la passion, c'est parce que ça vient essentiellement à partir du corps. Donc les actions ou les volontés sont au pouvoir de l'esprit ou de l'âme, comme il dit, et ne peuvent que de manière indirecte être modifiées par le corps. Et inversement, les passions sont au pouvoir du corps et ne vont pouvoir être modifiées que très indirectement par l'esprit. Et on verra aussi comment. Alors, physiquement, comment ça va se passer dans le corps humain? Pour Descartes, cela se passe dans la glande pinéale. Il en a fait plusieurs dessins. Ça se passe dans le cerveau. Cette petite glande peut être aussi bien mue par les pensées que par le corps et par les influx nerveux. Et alors, c'est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui extrêmement étrange et tout à fait à milieu de ce que la médecine considère comme mode de fonctionnement. Ce qui me semble important ici, c'est de voir d'abord le raisonnement de Descartes, de le resituer aussi dans le contexte où l'anatomie et les dissections étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Et bien entendu, les études par résonance magnétique n'étaient pas encore même imaginables, comme on le fait énormément aujourd'hui. Mais ce qui importe, c'est de voir comment il va essayer de comprendre comment le cerveau peut à la fois, et cette glande pinéale est à l'origine des pensées et des émotions, et comment on passe de l'un à l'autre. Alors c'est absurde, et Spinoza, dans le même siècle, va s'en moquer. Mais regardez le raisonnement de Descartes, la dernière. Il remarque que la plupart des organes des sens sont doubles. On a deux yeux, deux narines, deux mains pour sentir, et pourtant, on a une seule pensée. Et il essaye de voir d'où ça peut venir. Même le cerveau a deux hémisphères. Et c'est pour ça qu'il considère qu'il y a dans le cerveau une seule partie qui est vraiment en plus en son centre et qui est une, et qu'elle doit avoir un rôle dans la pensée et dans les passions. Regardez aussi comment cette manière de faire est de montrer physiquement que la pensée est incarnée dans le corps et dans le cerveau. On a vraiment un aspect de physique, de physiologie qui essaye de montrer comment la pensée et les émotions s'élaborent. Alors voilà comment il le justifie. Il n'y a en nous qu'une seule âme, et cette âme n'a en soi aucune diversité de parties. La même qui est sensitive est raisonnable, et tous ses appétits sont des volontés. L'âme, elle ressent aussi bien qu'elle pense. C'est du même ordre. Et donc, et c'est pour ça que désir et volonté, ici, ne sont plus du tout opposés. Ça vient du point de vue qu'on adopte. Chaque volonté, donc, va être jointe à un mouvement de la glande pinéale, selon Descartes. Mais par l'habitude, va-t-il remarquer, on peut exercer le corps à modifier les choses qui se font naturellement. C'est-à-dire que la glande pinéale peut être mue aussi bien par la pensée que par les émotions. Et souvent, on remarque que telle émotion va provoquer telle pensée, ou que telle pensée va provoquer telles émotions. Or, on a un pouvoir volontaire, donc, sur les choses auxquelles on pense. Si on n'y fait pas attention, la pensée vient en nous sans qu'on la dirige, mais on peut aussi décider de penser à telle chose. Et quand on sait que quand on pense à telle chose, cela va provoquer tel sentiment en nous, on peut donc essayer de modifier cette association. Et c'est comme ça que l'on peut voir chez Descartes que l'on n'est pas dans un pur déterminisme non plus, mais qu'il y a une ouverture pour la morale. On va pouvoir jouer à associer les choses différemment pour ressentir les choses. Mais je reviendrai plus tard sur cet aspect de la morale. Descartes va insister sur l'utilité des passions. Et c'est quelque chose qui, dans son ouvrage, va revenir à 3 ou 4 reprises. Les passions sont utiles. Or, vu le côté très systématique de Descartes, que j'ai essayé de vous montrer, qui traite d'un point, qui analyse comme ceci, comme ça, et puis l'autre point, etc., c'est tout à fait exceptionnel de revenir à plusieurs reprises sur un élément qui, de ce fait, doit donc être, me semble-t-il, considéré comme particulièrement important ou, en tout cas, sur lequel Descartes veut insister. Alors, à quoi servent les passions? Et voilà ce qu'il répond. L'usage de toutes les passions consiste en cela seul qu'elles disposent l'âme à vouloir les choses que la nature dicte nous être utiles et à persister en cette volonté, comme aussi la même agitation des esprits, esprits animaux, toujours un flux nerveux donc, qui a coutume de les causer, dispose le corps aux mouvements qui servent à l'exécution de ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilité des passions, c'est de disposer la volonté, et donc l'esprit, à vouloir ce que la nature dit qu'il est bon que le corps veuille. Je prends un exemple. La peur. La peur va nous inciter à fuir. Et la passion de la peur, l'émotion de la peur est utile parce que face à un danger, il est bon que l'on puisse fuir. Et donc, il y a un côté utile et ce sera la même chose, on le verra plus en détail, pour l'ensemble des passions qui vont donc nous montrer, nous faire aimer ou haïr ce qui est bon ou qui n'est pas bon pour nous, d'après la nature et donc d'après le corps et le côté matérialiste des choses, du côté de la matière, de la nature. Ça veut dire que les passions, pour Descartes, sont bonnes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, on a vu à la première séance que dans l'Antiquité, les passions sont problématiques. Pourquoi ? Parce que le but, c'est l'ataraxie, l'égalité d'âme. Et les passions viennent troubler cette égalité d'âme. Aussi bien les passions positives, la joie, etc., que les passions négatives posent problème. Il faut essayer de se garder et de se tenir donc éloigné de ces troubles que sont les passions. On a quelque chose d'identique, et on en a parlé à la séance précédente aussi, dans toute l'époque chrétienne. Et c'est à l'époque chrétienne qu'il y a cette opposition entre la raison et les passions. La raison nous rend égal à Dieu. C'est par la raison qu'on est fait à l'image de Dieu. La passion s'oppose à ça. Et donc le rôle de la raison est donc d'aller contre les passions et de les limiter autant que possible. Vraiment, c'est l'idée de remettre un couvercle au-dessus de toutes ces émotions et passions et de les rendre comme on pourrait faire avec une plante où on les couvre jusqu'à ce qu'elles deviennent de plus en plus chétives et qu'elles soient extirpées. Et il y a l'idée, donc, dans toute l'ère chrétienne, de contrôler, de maîtriser les passions, mais vraiment dans le sens de les éliminer autant que possible. Les choses commencent tout doucement à changer au XVIIe siècle. Un certain Jean-Pierre Camus en 1614 publie le traité des passions de l'âme dans lequel il écrit clairement que les passions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Selon qu'elles vont conduire à une action qui est bonne, la passion est bonne. Et si elle mène une action qui est mauvaise, la passion est mauvaise. Donc en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Descartes est, à ma connaissance, le premier à clairement écrire que les passions sont en soi bonnes. Toutes les passions, par nature, sont bonnes. Et là, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Alors, on pourrait sans doute défendre l'idée que déjà chez Montaigne, par exemple, la passion peut être quelque chose de positif. Mais c'est une analyse de Montaigne qui mènera à ça. Montaigne ne dit pas jamais clairement que les passions sont bonnes comme le fait Descartes. Elles ne sont donc pas indifférentes. C'est pas simplement qu'elles ne sont pas nuisibles. Elles sont bonnes en soi. Et c'est la première fois que l'on peut voir que les passions sont quelque chose de bon. Et c'est assez ironique qu'aujourd'hui, Descartes soit celui qu'on oppose toujours à l'idée de passion et d'émotion. Parce que justement, il est le premier à dire qu'elles sont bonnes. Voilà ce qu'il écrit à la fin de son ouvrage. Et maintenant que nous les connaissons toutes, ces passions, nous avons beaucoup moins de sujets de les craindre que nous n'avions auparavant. Car nous voyons qu'elles sont toutes bonnes de leur nature et que nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage ou leurs excès. Donc, elles sont toutes bonnes par nature. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on peut s'adonner purement et simplement à n'importe quelle émotion et de rechercher juste sans plus, à ce moment-là, on aura envie de telle chose, à tel autre moment, de telle chose, et qu'on se laisse conduire par l'envie du moment. Il y a possibilité d'excès ou de mauvais usage des passions. Mais en soi, elles sont bonnes. Donc le problème, ça ne vient pas des passions, mais du mauvais usage qu'on en fait, ou éventuellement de l'excès. Alors, avant d'entrer vraiment dans cet usage des passions, il faut encore décrire celle-ci. Parce que Descartes remarque, les passions viennent du fait que les esprits animaux vont faire bouger la glande pinéale. Mais ça n'explique pas encore pourquoi on a des émotions différentes. Ça montre comment les émotions agissent, mais pas quels sont ces différents affects que l'on peut avoir. Et il va se mettre à énumérer ces différentes passions, ces différentes émotions, et à les classer. Alors, il va remarquer 6 passions primitives ou principales. C'est à partir de ces 6 passions-là que toutes les autres s'expliquent également. Alors, je vais donc m'attarder un peu plus sur ces 6 passions primaires et simples. D'abord, l'admiration. Qu'est-ce que c'est que l'admiration ? C'est la surprise, l'effet, le sentiment de surprise que l'on a quand on se trouve face à un nouvel objet. Et c'est la toute première des passions parce que cela, l'admiration a lieu avant même que l'on puisse juger si l'objet est bon ou s'il est mauvais. On est simplement surpris devant un objet inconnu. Cette passion est utile parce qu'elle va nous permettre de concentrer notre attention sur cette chose nouvelle. Et donc, elle est à l'origine du désir de savoir. Elle va disposer l'esprit à chercher, à connaître, et connaître des choses nouvelles. Alors, si elle est excessive, c'est ce qu'il appellera l'étonnement, là, elle peut être problématique. De même, si elle est centrée sur des choses qui, en fait, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Si on juge, on se laisse seulement guider par cette passion de l'admiration, ben, on va s'arrêter devant chaque chose nouvelle. Et toutes n'ont pas la même importance ou le même intérêt. Le jugement et la raison vont donc pouvoir intervenir pour que l'on considère ce qui pour nous a réellement de l'importance et de l'intérêt et nous permettre donc d'orienter notre passion, pas du tout de la diminuer, mais de l'orienter vers les choses qui nous importent. Alors, les autres passions, donc, c'est déjà quand on aussi considère que l'objet est bon ou mauvais. L'amour, ça va être cette volonté de rejoindre un objet qui nous paraît bon. Et c'est quand on se considère comme partie de cet objet. Si on ne se considère pas comme partie de cet objet, on sera dans le désir de rejoindre un objet, mais qu'on considère comme bon. Si on considère qu'on fait un tout avec cet objet, c'est de l'amour, sinon c'est simplement du désir. À l'inverse, la haine, ce sera la volonté de se séparer de quelque chose qui nous paraît mauvais. La joie, ce sera une émotion agréable qui vient de la jouissance de ce qui nous paraît un bien. Et inversement, la tristesse, ce sera une émotion désagréable qui vient de la jouissance de ce qui nous paraît un mal ou éventuellement un défaut. Donc, la joie, quand on a l'impression de posséder quelque chose qu'on juge bien, posséder de manière pas physique et matérielle nécessairement, mais une qualité, par exemple, ça nous rend joyeux également, et la tristesse de posséder un mal ou un défaut. Alors, l'utilité est évidente pour les passions positives, mais ça fonctionne également pour ces passions négatives. Par la tristesse, par exemple, l'âme va connaître ce qui est nuisible pour elle ou pour le corps. Et par la haine, elle va avoir cette envie de se séparer de cette chose qui est nuisible pour elle. Donc, c'est aussi quelque chose d'extrêmement utile. À partir de là, Descartes va établir une grande classification de toutes les passions. Et je ne vais vous donner que quelques exemples ici, pour vous montrer comment ils fonctionnent. L'admiration pour la grandeur d'un objet, c'est une grandeur physique ou morale, hein, de la même manière, ça va être ce qu'il appelle l'estime. Et l'admiration pour la petitesse d'un objet, ça va être ce qu'il appelle le mépris. Si l'estime, donc l'admiration pour la grandeur d'un objet, se porte sur nous-mêmes et qu'elle est juste, qu'on vaut vraiment tel que l'on se voit, c'est ce qu'il appelle, et là faites attention, mais je vais revenir là-dessus, c'est ce qu'il appelle la générosité. C'est un sens assez courant encore au XVIIe et qui est extrêmement différent aujourd'hui. Mais si le mépris vis-à-vis de soi, si on éprouve du mépris vis-à-vis de soi, ça va être ce qu'il appelle l'humilité. Et si par contre, on a de l'estime pour soi-même, mais au-delà de ce qui serait juste, on est dans l'orgueil. Alors, il y a d'autres passions qui vont se baser sur l'amour. Si on estime, et ça se combine, vous voyez, il y a de l'admiration, il y a de l'estime aussi. Si on estime l'objet de son amour moins que soi-même, on va ressentir ce qu'il appelle de l'affection. Si on l'estime à l'égal de soi-même, ce sera de l'amitié. Et si on l'estime davantage que soi-même, ce sera de la dévotion. Et par exemple, l'amour pour les belles choses, ce sera de l'agrément. Et la haine pour les choses laides, ce sera le sentiment d'horreur. Donc vous voyez comment, à partir de ces six passions primitives, en les combinant ou en prenant en considération d'autres éléments, il va pouvoir reconstruire l'ensemble des émotions et des affects. Le plaisir et la douleur, par exemple, c'est la joie et la tristesse qui sont uniquement dans le corps. Alors, je vous avais dit que j'allais rester un peu plus sur cette passion de la générosité, qui est c'est la seule des passions qui ne sont pas primitives dont je vais vous parler, parce qu'elle a vraiment, elle joue un rôle important chez Descartes. La générosité, c'est donc le fait, souvenez-vous, de s'estimer soi-même à sa juste mesure. On se considère réellement, légitimement, selon ce qu'on vaut. Alors, pourquoi est-ce que cette passion est importante? Parce que cette passion peut constituer à elle seule un remède contre tous les excès. Si les excès et tous les dérèglements des autres passions, si on s'estime à sa juste mesure, ben on va se comporter de manière la plus estimable possible. Alors que si on s'estime trop peu, on ne va pas avoir tendance à faire de grandes actions estimables. Mais de la même manière, si on s'estime trop, il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on voit de soi-même. Donc on n'a pas besoin de se comporter toujours de manière estimable pour avoir une bonne opinion de soi. Donc la générosité, c'est-à-dire l'estime de soi à son juste niveau, va permettre d'éviter tous les dérèglements et tous les excès des passions. J'en viens maintenant à la morale, proprement dit. Et la morale, la manière dont on va pouvoir agir avec ses émotions, elle se base essentiellement par ce mécanisme de l'association. Une chose qui a auparavant été nuisible pour nous, même si ça ne l'est plus, on va garder ce sentiment de crainte et on va fuir cette chose. On l'a tous vu quand un jour on a été malade en mangeant tel plat, alors que toutes les autres fois avant on était, ça ne nous a pas posé le moindre problème. Il faut faire un effort, il faut du temps pour qu'on puisse, sans crainte et avec plaisir, remanger ce plat-là. Et il arrive même des fois où ça n'est jamais possible. Parce qu'il y a des associations qui se créent. Descartes raconte d'ailleurs de manière assez touchante, dans une lettre à l'ambassadeur de Suède, Chanu, que, enfant, il était amoureux d'une jeune fille qui louchait. Et que pendant de très nombreuses années, dès qu'il voyait une femme qui louchait, il éprouvait des sentiments de tendresse pour cette personne. Il y a donc des associations qui se créent comme ça et qui vont permettre de nous comporter et de guider, d'orienter un peu nos passions. Parce qu'on a vu que les passions, les affects qu'on ressent, on ne peut pas décider de ne pas les ressentir ou d'en ressentir d'autres. Mais, par contre, quand on ressent telle chose, on pense naturellement à telle ou telle chose. On n'a pas les mêmes pensées quand on est triste ou quand on est joyeux. Mais on peut décider d'avoir telle pensée. Et donc, si par exemple on est colérique et qu'on est en colère, plus exactement, et qu'on se concentre par sa volonté pour voir un paysage ou se souvenir d'une situation qui nous rend joyeux ou qui nous apaise, on va pouvoir calmer indirectement cette colère que l'on pouvait ressentir. Et c'est comme ça que l'on va pouvoir agir sur nos affects et nos émotions de manière indirecte. Alors, j'ai passé. Voilà. Il y a telle liaison entre notre âme et notre corps que lorsque nous avons une fois joint quelque action corporelle avec quelque pensée, l'une des deux ne se présente point à nous par après que l'autre ne s'y présente aussi. Et on peut modifier cela en partie, ou l'utiliser plus exactement. Les âmes fortes, c'est celles pour qui l'importance du jugement et de la volonté va être grand. les âmes faibles, c'est celles qui, pour qui la volonté ne va pas suivre les jugements et qui se laisse conduire par leur ressenti du moment. Mais d'après Descartes, il n'y a pas d'âme qui soit faible au point qu'elle ne puisse pas être guidée et orientée. Et pourquoi est-ce qu'il en est sûr ? Parce que même avec les animaux, ça marche. Un animal, un chien, il voit une perdrix. Naturellement, il court vers la perdrix. Il entend un coup de feu, il fuit. Mais on peut facilement dresser un chien pour qu'il s'arrête quand il voit une perdrix et qu'il court après le coup de feu vers celui-ci. Et donc, si on peut même le faire facilement avec les animaux, pour qui le jugement et la raison n'a pas grande importance, évidemment, on peut le faire avec soi-même, mais ça demande un peu d'habitude et d'exercice. Il n'y a point d'âme si faible qu'elle ne puisse, étant bien conduite, acquérir un pouvoir absolu sur ses passions. On peut donc ne pas être soumis à ses passions si on s'exerce à, par la volonté et par les pensées, à amener d'autres sentiments. C'est-à-dire que la vertu, c'est uniquement une question de pensée et de passion. La vertu, c'est une habitude en l'âme qui va la disposer à certaines pensées et à certains sentiments. Et vous voyez comment on est à nouveau extrêmement loin de la vertu chrétienne. La vertu, c'est juste une question d'habitude, de pensée et d'affect. Ça veut donc dire, bien sûr, que le jugement va avoir beaucoup d'importance, de même que l'expérience et la raison, l'analyse de la manière dont on fonctionne pour pouvoir changer, si on le souhaite, les associations. Parce que parfois on va croire qu'une chose est bonne et donc on va l'aimer ou la désirer, alors que si on y réfléchit, elle ne l'est pas forcément. On peut reprendre l'exemple du gros morceau de gâteau auquel on a éventuellement du mal à résister. On en a envie, mais on sait très bien combien on va se sentir lourd et le regretter après. Il est donc important que le jugement vienne nous rappeler ce genre de choses et que éventuellement, par la volonté, on se concentre et on se rappelle vraiment, on ait devant les yeux les émotions, les affects négatifs qu'on peut avoir par après. Mais ce n'est pas question de supprimer, ce n'est pas une question de supprimer le désir, c'est juste orienter les différentes passions ou les tourner vers ce qui est toujours favorable. Si le jugement est juste, si on aime quelque chose qui est vraiment bonne et pas simplement qui nous paraît bonne, les sentiments de désir et d'amour ne peuvent pas être même excessifs. Et il est intéressant, explique Descartes, dans une partie de l'ouvrage qui a vraiment des tendances et des connotations épicuristes, de si on veut chaque fois être bien, de faire porter notre désir et notre amour sur des choses qui dépendent de nous. Parce que si on les fait porter sur des choses extérieures à nous, ben on peut être à la fois triste parce qu'on n'arrive pas à aller vers ces choses, et puis ben ça nous détourne des choses qui dépendent vraiment de nous, et donc on se perd dans des recherches de plaisir auxquels on n'atteindra jamais véritablement l'état de bonheur ou de félicité. Donc on n'est pas dans une perspective où la vertu c'est fuir le plaisir, hein. Simplement, ben tiens, on va peut-être, si on veut être plus sûr d'être chaque fois heureux, on va pouvoir aller chercher vraiment les choses qui vont dépendre de nous. Et comme ça, on va être beaucoup moins troublé par les autres. Et donc, le remède général contre l'excès des passions, ça va simplement être de se souvenir que quand on est troublé par une passion, on va avoir tendance à considérer comme très importantes toutes les raisons qui nous font aller vers cet objet-là et comme fort peu importantes ce qui nous en détournerait. Et que donc, d'après Descartes, ça vaut la peine de prendre un peu de temps, d'attendre d'être moins troublé pour juger à froid, pourrait-on dire, de est-ce que la chose a vraiment autant d'importance ? Alors là-bas, on pourra décider si on fait tout pour l'obtenir ou non. Parce que souvenez-vous qu'une passion, ça va provoquer des effets dans le sang, dans les nerfs, etc. Et bien entendu aussi dans le jugement éventuellement. On en a tous fait l'expérience, quand on aime quelqu'un, on trouve cette personne-là belle, on lui trouve toutes les qualités, quand on est vraiment dans le sentiment amoureux du début. Après, il y a un autre sentiment d'amour qui vient, mais au début, on minimise tous les défauts, souvent on ne les voit même pas et on est juste pris par ce sentiment qui ne nous permet pas toujours de juger de la même manière qu'on peut juger les choses après de manière plus posée. Alors, pour conclure, alors il y a bien chez Descartes l'idée de guider les passions, et ça se fait essentiellement par ce mécanisme de l'association, mais jamais, jamais l'idée de les supprimer. Mais même pas d'en supprimer une ou l'autre. C'est toujours de les accepter toutes, simplement de les guider, de les orienter. Parce que, pour lui, clairement, le bonheur va dépendre de ses passions. Et c'est ainsi qu'il termine son ouvrage sur les passions de l'âme, que c'est d'elles seules, des passions, que dépend tout le bien et le mal de cette vie. Au reste, l'âme peut avoir ses plaisirs à part. Mais pour ceux qui sont communs avec le corps, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. Autrement dit, ce sont les hommes qui éprouvent le plus de passion qui ont la possibilité d'être le plus heureux dans la vie. Il est vrai, précise-t-il, qu'ils y peuvent aussi trouver le plus d'amertume lorsqu'ils ne les savent pas bien employer et que la fortune leur est contraire. Mais la sagesse est principalement utile en ce point qu'elle enseigne à s'en rendre tellement maître et à les ménager avec tant d'adresse que les maux qu'elle cause sont fort supportables et même qu'on tire de la joie de tous. Donc, avoir des passions, c'est ce qui permet d'être heureux. Et plus on pourra ressentir les choses, plus on va pouvoir être heureux. Alors, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui, pour avoir le temps pour la discussion. Et j'espère vous avoir montré un Descartes qui n'est pas habituellement celui qu'on enseigne. Alors, je vais vous laisser faire circuler le micro vous-même pour ne pas courir d'un bout à l'autre et vous laisser le temps d'intervenir.
Merci beaucoup, madame, pour ce merveilleux entretien. Je voudrais vous demander, à l'époque de Descartes, est-ce qu'on parlait d'intuition ? Et où est-ce qu'on placerait l'intuition dans l'âme ? Comment est-ce que vous pourriez le décrire ou le placer dans le discours de Descartes ?
Alors, l'intuition est un concept important chez Descartes, mais pas dans le sens actuel. On va pouvoir les vérités simples, qui ne sont pas composées d'autres, on ne les prouve pas. On les touche de l'esprit. Et ça, c'est la notion d'intuition à l'époque. Et donc, c'est pas du tout le sens de ce sentiment qui nous ferait naturellement, sans savoir pourquoi, aller vers une chose ou vers une autre, comme on aurait tendance à définir aujourd'hui l'intuition. Non, mais il me semble que c'est comme ça qu'on le définirait plutôt aujourd'hui. Dans ce sens-là, ça risque d'être ce que Descartes appelle les âmes faibles, qui n'ont pas de jugement. Ou alors le jugement orienterait aussi l'intuition. Mais dans le sens de l'époque, c'est un concept vraiment important chez Descartes qui est de toucher avec l'esprit les vérités simples. Oui ?
J'aurais peut-être deux questions. La première, disons, c'est peut-être un commentaire plutôt, c'est de dire, bon, comme l'a exprimé dans l'introduction, Descartes se dit, je doute de tout, sauf de la religion, de Dieu et du roi. Enfin, on ne verra jamais qu'il va contester l'existence du roi.
Il ne le dit pas, mais il le fait. Parce que quand il imagine l'hypothèse d'un malin génie, c'est le fait de douter de Dieu et d'un Dieu bon. De toute façon, la religion, il ne le dit pas directement. Et c'est vrai que Descartes dit explicitement qu'il ne remet pas en question la religion et qu'il ne traite pas de politique. Il le dit. Mais si on regarde ce qu'il fait, c'est loin d'être ça. La religion et la politique, ça va. C'est la première chose qui est éliminée avec son doute, parce que cela vient des connaissances qu'on a entendu par oui dire et qui est le mode de connaissance le plus bas et le plus trompeur possible.
Bon, alors, deuxième question. C'est un peu l'explication de la justification de la glande pinéale.
Oui.
Bon, qui sont complètement farfelues.
Tout à fait.
Et qui sont même contraires à la méthode expérimentale, parce que je ne pense pas que Descartes ait imaginé une expérience pour justifier l'action de la glande pinéale.
C'est difficile d'imaginer.
Donc, justement, donc, est-ce que ce n'est pas parce que Descartes se méfie de ses sens, donc il se méfie des expériences qu'on peut pratiquer, parce que, bon, par l'expérience, on voit, on fait des calculs, on sent. Donc, est-ce que c'est parce qu'il veut se limiter simplement à sa raison qui pourrait refuser la méthode expérimentale? Ou, entre parenthèses, ici, il y a eu, je pense, une polémique avec Pascal concernant l'existence du vide.
Oui, ça c'est encore autre chose.
Oui, mais là, il y a une expérience qui a montré que Pascal avait raison et que Descartes avait tort.
Oui. Bon.
Alors, la méthode expérimentale.
Alors, la méthode expérimentale, c'est quelque chose que l'on dit à peu près systématiquement chez Descartes. Descartes refuse l'expérience. Or, si on regarde notamment dans ses principes, Descartes dit explicitement « Je peux construire autant de théories que je veux sur les choses. Quand il s'agit de connaître le monde, je ne pourrai savoir laquelle est juste que si je peux expérimenter. » Alors, il a peu expérimenté. Il fallait, mais même à l'époque, Galilée n'expérimente pas énormément.
Si, quand même. Si,
il décrit des expériences.
Il en fait.
Il en fait, mais ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'il fait. Descartes essaie. Descartes essaye. Il décrit les choses. Il fait différentes hypothèses, dirait-on aujourd'hui, et il dit que c'est l'expérience qui déterminera laquelle est juste et qui dira si ces théories sont correctes ou pas. Alors, il n'a très peu expérimenté dans les faits. C'est exact. Mais, et du coup, je ne sais pas pourquoi, on raconte que Descartes est contre l'expérience. Mais là, je peux te retrouver sans problème le passage où il l'explique combien l'expérience est importante.
Je t'ai écouté passionnément. Je voulais te demander, est-ce que lorsqu'il parle des passions, Pascal aborde-t-il le thème des passions qui
Descartes.
Peuvent... Descartes. Descartes aborde-t-il le thème des passions qui peuvent conduire à une véritable pathologie? Donc, enfin, on ne peut pas voler, mais il y a des pathologies de kleptomanie, par exemple, et on peut prendre d'autres exemples. Est-ce qu'il va jusque-là?
Il ne prend pas cet exemple-là. Mais il parle tout le temps des excès possibles des passions. Et ça, il le considérait comme une pathologie, un désir de posséder qui est excessif et qui n'est pas, ne correspond pas au jugement qu'on trouve des choses. Parce que la kleptomanie, c'est on prend tout ce qui est tout ce qu'on a sous la main. C'est même pas le vol pour une chose auquel on tient véritablement. Mais donc, c'est simplement à la fois un excès d'une passion, le désir de posséder, et en même temps, une passion où on se concentre sur des choses qui n'ont pas de valeur et pas d'intérêt. Alors, il ne le décrit pas en détail comme ça, mais tout le temps, pour chaque passion, il montre quel pourrait être son excès ou le fait d'être appliqué à des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on juge en valoir la peine. Mais il ne va pas, dans le sens psychiatrique, à décrire une pathologie telle qu'on la définirait aujourd'hui comme la kleptomanie. Ça, il ne va pas là-bas. Mais toutes les passions... Parce qu'il n'y a pas l'idée que... Il n'y a pas l'idée chez Descartes qu'on passe dans la pathologie. Il y a l'idée, ben là, c'est excessif. Mais c'est pas objectivement excessif. C'est toujours, c'est la personne qui juge ce qui est bon ou ce qui n'est pas réellement bon pour elle. Le bien et le mal ne sont pas définis une fois pour toutes dans les passions. Ce qui est bon pour lui de la recherche, sa passion pour la recherche de la vérité, mais c'est lui qui la juge bonne. Alors il trouve des raisons. Il va être beaucoup moins déçu avec cette passion-là que s'il recherchait la gloire, par exemple. Parce que ça dépend d'autrui et pas de lui-même. Mais il n'y a pas cette distinction, ce qui est pathologique et ce qui est bien, normal. Parce que ça implique de concevoir un bien et un mal dans les choses qui sont partagées pour tous. Et ici, c'est le jugement de chacun qui va le définir.
Ici, je vois que Descartes ne parle toujours que de l'individu pour lui. Est-ce que dans sa pensée, il y a aussi l'autre ? Pas la société, mais même, bon, c'est peut-être bon pour lui et très mauvais pour son voisin. Si une action qui serait très bonne pour lui va faire du mal à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il parle aussi de ça ?
Pas dans cet ouvrage. Parce que ce n'est pas un ouvrage de morale. Il y a à la fin un petit versant sur la morale. C'est un ouvrage de physicien sur le corps humain. Et donc, il n'y a pas de morale générale à ce niveau-là. Ce qui importe, c'est de voir comment ça marche pour chacun, montrer comment éventuellement on peut guider les choses, mais il n'y a pas un point de vue sur la société qui dirait ça est bien ou ça est mal de manière générale.
Mais il a écrit aussi un ouvrage où il donnerait son point de vue sur une morale.
C'est ceci, son ouvrage de morale. Non, il ne va jamais décider de manière générale ça c'est bon pour la société, ça ne l'est pas. Il y a quelques extraits de lettres où il se laisse un petit peu aller à ça. Mais c'est dans sa correspondance privée. Oui ?
Qu'il n'a pas comparé l'animal à une machine ?
Si. Alors, il a en effet comparé l'animal à une machine. Pourquoi ? Parce que il faut resituer le contexte religieux. On est encore dans l'idée de l'homme qui est à l'image de Dieu et qui est un être à part. Est doué de raison. Descartes va dire, à l'inverse, les animaux sont comme des machines. Il ne faut pas oublier le comme. Ça veut dire qu'ils ont un comportement, une physiologie qui fait qu'ils sont de l'ordre de la matière, leurs volontés sont de l'ordre de la sont guidés par des esprits animaux, des influx nerveux qui vont les faire vouloir aimer ou pas telle ou telle chose et donc se comporter en con. En disant cela, je pense qu'il est tout à fait erroné de considérer que Descartes sépare l'homme et l'animal. Je crois qu'il faut le comprendre comme la maîtrise, l'expliquera au siècle suivant en montrant que l'homme est aussi un animal et que toute sa manière, sa pensée et sa volonté aussi, comme ses sentiments, ses affects, sont d'ordre physiologique, pourrait-on dire. Quand il décrit pourquoi l'homme va aimer telle chose, ressentir de la joie, de la tristesse, etc., et penser à certaines choses, et qu'il le décrit dans le cerveau. C'est bien montrer que l'homme est construit physiologiquement et que jusqu'à ses émotions et même ses pensées, et donc d'une certaine manière sa raison, se passe dans le corps. Mais c'est quelque chose qu'il est absolument impossible de dire tel quel à l'époque. Donc, il va le dire pour les animaux, et ici, sans dire tel quel dans les passions de l'âme, il montre que ça fonctionne physiologiquement de la même manière pour les hommes. Donc, alors je sais qu'on dit toujours, pour Descartes, les animaux sont des machines et l'homme, lui, est à l'image de Dieu, mais c'est un raccourci qui, à mon avis, n'a pas de réelle pertinence quand on étudie vraiment ces textes. Oui. Pour les personnes derrière, comme ça, elles entendront aussi la question.
Je vais poser une question vraiment de Candide. Quand tu as bien expliqué qu'il avait choisi la glande pinéale comme à l'origine des pensées, des émotions, mais c'est assez surprenant pour quelqu'un qui dit douter tout d'arriver à mettre sur quelque chose qu'il ne connaît finalement pas du tout, simplement par en se disant bah oui tiens il y en a qu'une alors que les autres choses il y en a deux, arriver à déterminer que c'est de là que ça vient. C'est un peu surprenant par rapport à sa pensée de base, si j'ose dire.
Mais c'est le paradoxe chez Descartes, il doute mais pour connaître, et il y a déjà dans cette tension là c'est pour être sûr de connaître plus qu'il va faire le chemin du doute. On a le même type de paradoxe, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe. À l'époque, tout ce qui est physique et tout ce qui est physiologie, ça s'invente plus encore que ça ne se découvre. L'expérience, surtout sur l'être humain, est extrêmement limitée et les possibilités, mais ça ne va pas encore de soi de disséquer un corps humain. Ça se fait en Hollande, ça commence, etc. Mais même simplement face à un être mort. Donc, on cherche comme on peut. Or, c'est vrai qu'il s'est avancé, qu'il a dit des choses qu'il ne pouvait pas prouver. En tout cas, pas prouver selon les méthodes scientifiques actuelles. Ça n'est pas anormal à l'époque d'essayer de prouver en raisonnant. Et c'est comme ça qu'il essaye, en se disant, ben tiens, j'ai une pensée, une volonté, et tout le reste vient par deux, mais tiens, où est-ce que ça pourrait être, et qu'il imagine que ce serait la glande pinéale. Alors c'est une bêtise, évidemment, aujourd'hui on le sait. Mais le raisonnement n'est pas idiot, et ce qui est important, c'est de voir qu'il va donner un siège à la pensée dans le cerveau. Et donc, une conception corporelle, physique, matérielle, jusque de la pensée et des émotions. Oui.
Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de la théorie de Wiesel, par exemple, qui était aussi, je crois, du même pays? Hollande. Non, je ne sais pas.
Alors, je suis incapable de vous dire s'il a lu et s'il s'est inspiré de Wiesel. En général, il n'aime pas trop s'inspirer d'autrui. Et c'est logique avec sa manière de faire, parce que s'il considère qu'on peut raconter des choses qui sont fausses et que toute la connaissance par oui-dire et celle qu'il faut remettre en question avant tout, ça m'étonnerait qu'il aille chercher à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est évident qu'il a lu Giordano Bruno et qu'il en a repris des choses. Montaigne est aussi un de ses grands inspirateurs. Mais c'est des auteurs pour lesquels ce n'est pas une connaissance un peu systématique des choses. Mais il faudrait J'aurais dû prendre le 12e volume avec l'index et je n'ai pris que celui avec l'ouvrage ici pour pouvoir aller voir si même simplement il cite Vézal ou si on a vu un lien. Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée.
Merci pour votre réponse.
Alors, encore une question ? Ou c'est bien ? Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite dans ce cycle, ce sera à nouveau moi qui vais vous parler, mais alors de la passion chez Hobbes, le 5 janvier. Et par contre, lundi prochain, ici même, c'est Annick Englebert qui va venir parler de la... C'est dans le cycle sur la gastronomie, et c'est sur la gastronomie à l'époque du Moyen-Âge. Voilà.